Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve.
Les débats de panorama sur Europe 1 jusqu'à 19h avec deux politologues à table ici avec moi. Bonsoir William Tay.
Bonsoir Pierre.
Président du think tank Luminaire. Bonsoir Dorian Dreuil.
Bonsoir.
Expert associé à la fondation Jean Jaurès. Alors ce remaniement, dernières informations du service politique d'Europe 1 qu'on a vu dans le journal de 18h. Gabriel Attal qui devait faire ses vœux ministériels demain matin, finalement les fait le 11, donc jeudi. Est-ce que c'est un indice plausible, probable, d'une autre communication, comme on dit dans le jargon, demain matin, William T.
Parmi la liste des prétendants à Matignon ou des prétendants supposés à Matignon, c'est le seul qui permettrait à Emmanuel Macron de mettre une équipe de combat, parce que dans les différents noms qu'on circule, il y a à peu près deux catégories. Il y a les personnes qui ont un poids politique qui sont très forts, qui permettent à Emmanuel Macron de respecter les institutions de la 5e, donc d'avoir un président qui préside, d'avoir un premier ministre qui est le chef de la majorité. Or, le président de la République est exposé, baisse dans les sondages, parce qu'il est à la fois président de la République, chef de l'État, et également chef de la majorité. Donc si par cas, il y a une mauvaise action politique, et bien c'est lui qui en paye les conséquences. Quand on regarde les noms qui sont cités, donc d'un côté Richard Ferrand qui a été éliminé, mais Sébastien Lecornu, Julien de Normandie, rentrerait dans la même case que Jean Castex et Elisabeth Borne, c'est-à-dire d'une annexe de Matignon, qui serait une annexe de l'Élysée, auquel ce serait Alexis Kohler, qui officiait véritablement comme premier ministre, et c'est Emmanuel Macron qui serait président de la République. Si par cas, Emmanuel Macron veut renverser la tendance, je pense qu'il devrait considérer des questions comme Gabriel Attal et comme Bruno Le Maire qui permettraient de donner une impulsion plus forte à l'action gouvernementale qui est en difficulté alors qu'Emmanuel Macron a à peine été réélu il y a 18 mois.
Ouais, donc au lieu d'une... ou là où nous voyions juste peut-être une... enfin, comment dirais-je, une question de calendrier, parce que quand le président de la République ou quand le secrétaire général de l'Élysée arrive sur le perron de l'Élysée pour annoncer une nouvelle équipe gouvernementale, ça fait mauvais genre pour un ministre majeur d'annoncer ses vœux à l'éducation nationale. Vous allez plus loin, vous dites que Gabriel Attal peut être en fait le dossier caché.
Il y en a 4-5 noms qui circulent.
Oui, et alors surtout Dorian Dreuil, parce que c'est peut-être
mon nom,
une...
qui circule.
Non, surtout Dorian Dreuil, parce que le président a toujours pas aimé que de prendre un nom qui a été beaucoup cité la semaine d'avant. C'est-à-dire que ça a été le cas notamment quand il a nommé Madame Borne, pour la première fois d'ailleurs.
Oui, ou pour d'autres raisons, laisser vivre un nom comme ça quelques jours pour voir comment réagit l'opinion, comment réagit la majorité, voir s'il y a des levées de boucliers ou pas. Ce qui est d'autant plus important, j'ai envie de dire, dans ce contexte de majorité relative, où il faut trouver le ou la personne, la personnalité qui va être compatible avec les trois groupes parlementaires de la majorité, le Modem, Horizon et Renaissance, et qui ne va pas être incompatible avec les Républicains, dont ils vont avoir besoin pour certaines réformes, et qui ne sera pas non plus impossible pour les groupes parlementaires de gauche. Donc c'est quand même pas évident de trouver celui ou celle qui réunit toutes ces qualités dans un timing qui n'est pas idéal, parce qu'on est au lendemain d'une crise politique très forte au sein de la majorité après le projet de loi immigration, mais on est à quelques mois d'un rendez-vous électoral qui va être très important et pour lequel la majorité présidentielle n'est pas donnée en avance, voire même plutôt très très.
Vous pouvez même dire dans lequel pour les européennes où on a une tête de liste qui arrive, c'est celle de Jordan Bardella et dans tous les sondages il est
donné gagnant. Et qui a plus de 10 points, donc le timing de ce remaniement est pas évident pour donner un nouveau souffle au quinquennat. Et surtout, il y a cet équilibre à trouver. Et ce que vous disiez tout à l'heure, ce que Fred Dabi disait aussi avant qu'on arrive.
Vous m'appelez Fred Dabi, vous.
Oui,
c'est comme Frédéric. Comme Morane, en fait. Hein. Fred Dabi contre tout chacal. Aventurier contre tout guerrier, oui, bien sûr.
Et ce qu'il disait était très juste, dans le sens où il faut aussi trouver la personnalité politique qui va pouvoir gouverner. Parce que dans les institutions de la 5e République, et cet équilibre est très important, présider et gouverner sont deux choses différentes. Et quand le président de la République doit gouverner, là, ça crée un déséquilibre institutionnel qui ne se voit pas forcément par le grand public ou l'opinion de manière très visible, mais qui, dans la vie politique et démocratique de notre pays, a une incidence. Et donc, ce n'est pas évident de trouver cet équilibre, d'autant plus dans nos institutions, avec le fait du quinquennat, et encore plus dans le contexte d'une majorité relative.
Et je repense ce que vous dites sur l'immigration. Effectivement, ils se sont cassés le nez, hein, l'exécutif, sur le texte. Et c'est pas fini, j'allais dire, c'est pas fini. Quand on voit les déclarations du président de la République interrogé sur la longueur par nos confrères de France 5 dans la salle des fêtes de l'Élysée, Souvenez-vous, il a dit, regardez, ce point-là, et notamment, je crois qu'il parlait notamment des allocations pour les étudiants étrangers. Moi, vous savez, ça ne me plaît pas, je ne saute pas de joie. D'ailleurs, ça pourrait être travaillé. Et il attend évidemment la décision du Conseil constitutionnel qui va retoquer deux, trois petites choses. Des cavaliers législatifs ont déjà été abandonnés, comme l'AME, il pourrait y en avoir d'autres. Cette discussion sur l'immigration, William Tell, elle n'est pas finie. Hein.
Non, elle n'est pas finie, la loi sur l'immigration, parce que de toute façon, le gouvernement, même si c'est Elisabeth Borne, ils se sont engagés à proposer une nouvelle loi concernant l'AME, ce qui a conduit à la démission d'Aurélien Rousseau. La question, en plus, on a eu la polémique, avait porté sur Pierre Moscovici, qui a retardé la publication du rapport, qui devait être initialement publié, je crois, le 13 décembre, entre le moment où il y a eu la motion de rejet et au moment de la conclusion de la CMP. Est-ce que Pierre Moscovici va démissionner ou pas, ou est-ce qu'il y aura un débat sur cette question? Ça va être posé. Le point pour Emmanuel Macron, je pense, au-delà des questions migratoires, c'est que depuis qu'il a la majorité relative et depuis l'adoption de la réforme des retraites, il ne peut faire passer que des textes dits consensuels. C'est-à-dire qu'il fait passer des textes qui n'ont qui n'ont pas de portée de débat politique. Oui.
Et c'est ce que disent d'ailleurs les porte-paroles de Renaissance. Ils disent, regardez le nombre de textes qu'on a fait passer. Voilà. Et en fait, ce sont des
petits textes ou des textes techniques. Ça, ils peuvent les faire passer. Tous les textes politiques, tous les textes marquants, il n'a aucune chance de les faire passer sans avoir un accord, soit avec le PS, soit les Verts, soit par Calais Républicains. Or, le PS et les Verts sont plus proches de la NUPES que de la majorité présidentielle. La question qui se pose pour lui maintenant, c'est qu'est-ce qu'il peut faire? On est à 3 ans de la prochaine échéance présidentielle. Qu'est-ce qui lui reste comme option? La première option, c'est de se dire, je gouverne un peu à la Jacques Chirac, je me mets un peu en retrait, je mets un Premier ministre qui va faire le pont entre la majorité présidentielle et les Républicains, et moi je donne un cap.
Et qui pourrait être un bon de fin pour 27, en l'occurrence, on pourrait penser à Gabriel Attal.
Peut-être lui, mais je pense que c'est pas forcément la meilleure option, c'est plutôt le cornu qui se mettrait plutôt dans un rôle où il dit, j'ai pas d'ambition présidentielle, je fais le pont entre les deux parties pour que les partis de gouvernement tiennent face au Rassemblement National. La deuxième option, c'est qu'il se dit, je mets quelqu'un de très fort en vue de repartir à la conquête de l'opinion, rattraper le retard avec les élections européennes avec Jordan Bardella pour qu'il n'y ait pas 10 points d'écart, voire 15 points d'écart, mais qu'il y ait uniquement 5 points d'écart. Et ensuite, après, de dire, ce n'est pas moi qui bloque les institutions, moi j'ai la volonté de réformer, vous m'avez fait confiance il y a 2 ans maintenant, donc il y a 1 an et demi, pardon, pour présider notre pays. Donc moi, je repars au combat et ensuite, après, provoquer une dissolution à la fin de l'année ou à la rentrée de septembre. Et à ce moment-là, ce serait l'option de Gabriel Attal ou de Bruno Le Maire qui serait la meilleure, parce que ça permettrait d'avoir un Premier ministre qui partirait au combat et qui a des capacités électorales bien plus fortes que quelqu'un comme Elisabeth Borne, qui a perdu les élections législatives, ou qui ne les a pas gagnées, ou le Cornu, ou Richard Ferrand, ou Julien de Normandie.
Dorian Dreuil, sur tous ces scénarios imaginés par notre réalisateur cinéaste William Tell.
Le scénario du dauphin 2027, il serait clairement pas stratégique parce que les premiers ministres sortants font rarement les présidents suivants. Ou en tout cas dans l'élection qui suit.
Mais aucun président n'avait été élu hors cohabitation avant l'ami de Gaulle.
Oui, c'est vrai que Emmanuel Macron a une tendance à déjouer les logiques historiques qu'on applique. En fait, j'ai plutôt tendance à penser que les noms importent peu dans cette configuration. Ce qu'il faut remanier, c'est la méthode. C'est la méthode de gouvernance. On a quand même une culture politique qui ne permet pas aujourd'hui de trouver des compromis, de bâtir des coalitions. C'est assez dramatique. Ça en dit beaucoup sur notre maturité démocratique. Dans toutes les autres démocraties autour de nous, où le Parlement devient à un moment donné, où l'est constitutionnellement l'élément central de la vie politique d'un pays, tout le monde arrive à bâtir des coalitions. Là, ça peut paraître presque fou que les Républicains et la majorité présidentielle n'arrivent pas à trouver un accord de gouvernement sur quelques textes clés avec lesquels travailler, et ce qui nous conduit à des psychodrames politiques, comme on l'a vu avec la réforme des retraites ou avec le projet de loi immigration, où un groupe parlementaire n'arrive pas à se décider s'il soutient vraiment ou pas. Donc on a quand même toutes les séquences qu'on vit depuis les élections de 2022 doivent aussi nous interroger sur le fonctionnement de nos institutions, sur notre mode de gouvernance démocratique et comment ça peut être amélioré et facilité et puis coller un peu plus avec les aspirations des citoyens et les nouvelles exigences démocratiques.
Oui, mais en même temps, il y a un message qui, je pense, n'arrive pas à passer, c'est tiens, je vais vous mettre un Premier ministre et c'est ce qu'on disait avec Frédéric David tout à l'heure, et par ce fait, eh bien, ça va régler vos problèmes du quotidien. Et ça, que vous mettiez, pardonnez-moi, mais je parle sous votre contrôle, mais que vous mettiez Bruno Le Maire, que vous mettiez Julien de Normandie, que vous mettiez Sébastien Lecornu, avec tout ce qu'ils ont de positif, je veux dire, ce sont des hommes politiques avec beaucoup de talent, chacun dans leur domaine, Je ne pense pas que tout d'un coup, l'électeur lambda se dise « Ah, mais c'est génial, demain sera totalement différent ».
Il n'y a pas eu beaucoup de remaniements qui ont eu un poids politique très fort. Il y a eu celui de 83 avec le tournant de la rigueur, le remplacement de Pierre Mauroy par Laurent Fabius, qui a permis de montrer un changement de cap, la rupture avec l'alliance avec les communistes pour devenir un parti social-démocrate classique et tourner vers l'horizon européen de François Mitterrand.
Ça, c'était un coup de poker de François Mitterrand.
Non, mais ça a marché, ça a transformé le parti socialiste durablement. Ils, aujourd'hui, peut-être qu'ils en payent aujourd'hui les conséquences. Il y a un deuxième tournant, moi, je pense, qui a fonctionné, même si François Hollande s'est loupé, c'est le changement de Jean-Marc Ayrault par Manuel Valls, qui donne une impulsion très claire avec le passage d'une politique de la demande à une politique de l'offre avec le CICE, le pacte de responsabilité, etc. Et peut-être qu'il en paye les conséquences aujourd'hui. Le point essentiel, c'est que de toute façon, le changement de Premier ministre doit traduire un changement de cap. C'est-à-dire que si par cas, Emmanuel Macron change les hommes, mais ne change ni la méthode, ni la ligne politique, il n'y aura pas de changement. C'est pour ça
mais
que...
Mais il ne le fera pas.
Mais
vous pensez qu'il veut... qu'il va y avoir un changement de méthode.
Moi, je n'exclus pas une seule option, c'est celle de Gabriel Attal, parce que Gabriel Attal, dans l'opinion, qu'on soit pour ou contre ce qu'il dit, a réussi à montrer qu'il avait fait un changement de cap avec celui de Papendiaï au ministère de l'Éducation nationale lorsqu'il débarque en juillet dernier. Ça veut dire qu'actuellement, le manque criant du macronisme, il y a peut-être des problèmes économiques, mais c'est surtout un problème d'autorité et sur les choses régaliennes. Si Gabriel Attal ou Gérard Darmanin, même s'il n'est pas en lice, quelqu'un comme ça arrive et met un changement de discours, un changement de dispositif très fort, peut-être que les Français se diront, eh ben, au moins... Peut-être qu'on ne fera pas confiance au gouvernement, mais au moins on écoutera ce qu'ils ont à dire. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, Gabriel Attal est maintenant crédité sur un ensemble des segments et a surtout monté dans les enquêtes d'opinion auprès des sympathisants républicains et un peu Rassemblement national.
Ouais, ce qui s'appelle en politique un électrochoc. Il fait la moudre, André. Il est ouais. Dubitatif.
Dans la mesure où la qualité qui sera indispensable pour le ou la prochaine ou pour Elisabeth Borne, quand même pas exclu qu'elle.
Ah ben bah voilà, c'est ça. Merci d'y venir. Voilà.
Qui reste en fonction. La principale qualité, ça va quand même aussi d'avoir de la technique parlementaire, de la connaissance de l'Assemblée, surtout dans la mesure où le centre névralgique de notre vie politique aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale. C'est cet hémicycle-là, c'est là où doivent se faire les accords, c'est là où tout peut basculer jusque dans les dernières secondes avant un vote ou autre. Et donc, il faut avoir sûrement un peu d'expérience parlementaire, un peu de roublardise, peut-être aussi un peu d'expérience de négociation, de discussion, de comment est-ce qu'on crée des compromis, comment est-ce qu'on traite avec cette Assemblée et avec les députés. Et pour ça, il faut y avoir traîné un peu ses guêtres et l'aimer, cet hémicycle, pour bien savoir le manœuvrer. Parce qu'il y a le qui peut, mais il y a aussi qui veut. Parce que ce n'est pas le job le plus marrant du monde d'être Premier ministre.
Contrairement à ce que dit François Bayrou ce soir.
Tous les 4 mois, on vient prendre des baffes en motion de censure, on vient poser des 49-3 pour faire passer des lois budgétaires et où les questions au gouvernement ont rarement été aussi violentes et difficiles à appréhender. Et où tout se concentre sur Matignon. Donc ce n'est pas une période joyeuse, si tant est qu'il y en ait pour être Premier ministre.
William Tay, comment est-ce que... Elisabeth Borne pourrait repartir, ni vu ni connu, j'allais dire.
Elle a un avantage très important depuis la dernière fois que son nom a été cité pour un départ, c'est-à-dire en juillet dernier, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant idéal. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, Emmanuel Macron a que des mauvais choix. C'est-à-dire que
sympa pour ceux qui nous.
Oui, en fait, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas quelqu'un qui coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui soit fidèle au président de la République, qui soit politique, mais en même temps très peu visible et qui ne fasse pas d'ombre au président de la République. Quelqu'un qui ait des fortes capacités de négociation et en même temps qui ait assez d'attractivité pour attirer d'autres groupes parlementaires. Mais vous ne pouvez pas à la fois être attractif et ne pas être lumineux, être taiseux. Enfin, ça paraît assez compliqué. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'Elisabeth Borne a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'elle a déjà l'expérience. Ça fait déjà 18 mois qu'elle fait ça. Et maintenant, elle a acquis une certaine crédibilité auprès de ses partenaires.
Une sorte de gauche ou de droite. D'inertie ou de résilience. C'est-à-dire que maintenant, comme disait Dorian Dreuil, il faut se blinder pour arriver dans l'hémicycle quand on reçoit les colibets. Bon, Madame Borne, à moins qu'on n'assiste pas à des scènes qui sont privées où elle s'effondre dans sa salle de bain le soir. Bon, je ne pense pas, mais elle est quand même très très forte et elle tient vraiment
le
flambeau.
Voilà. Elle tient. Deuxième avantage qu'elle a, je pense qu'il est...
C'était Liz Truss ou c'était quel premier ministre britannique qui s'était effondré en larmes? Je ne parle pas de Margaret Thatcher qui était dans une interview.
C'est Liz Truss.
C'était Liz Truss, voilà. Liz Truss. Merci.
Ouais. Et Elisabeth Borne a un autre avantage qui est structurant aussi, c'est qu'elle n'est pas candidate à l'élection présidentielle de 2027. Ou en tout cas, personne ne lui dit qu'elle peut être candidate à l'élection présidentielle de 2027, ce qui file un avantage, parce que lorsque vous voulez négocier avec des oppositions, il vaut mieux négocier avec quelqu'un qui n'a aucune chance de devenir président de la République, parce que si par cas vous mettez quelqu'un, vraisemblablement les Républicains vont lui mettre des pots de banane, comme le Parti Socialiste et les Verts et les autres oppositions. L'autre avantage que moi je vois, c'est qu'au sein de la majorité, il y a très peu de personnes capables de rassembler à la fois ce que vous disiez, c'est-à-dire la République, l'aile gauche de La République En Marche, l'aile droite de La République En Marche, Horizon et le MoDem. C'est-à-dire qu'il y a très peu de profils, dans la mesure où si par cas vous mettez quelqu'un de nouveau comme Attal, est-ce que le MoDem, est-ce que Édouard Philippe sera pour quelqu'un qui pourrait éventuellement prétendre à la succession d'Emmanuel Macron? C'est là où elle a un risque. Là où moi je vois une difficulté par contre pour Elisabeth Borne, qui est cruciale à l'occasion des élections européennes, c'est que électoralement, c'est celui qui a le moins bon profil, dans la mesure où c'est quelqu'un qui a déjà montré que dans les périodes électorales, elle n'a pas montré qu'elle avait assez d'allant et assez de force pour embarquer un passé des thèmes, notamment dans une période électorale.
C'est amusant que vous ouvriez la fenêtre sur Édouard Philippe, parce que dans le cas Gabriel Attal, évidemment, les cartes seraient rebattues. Il y a un dauphin, pour l'instant, qui est, j'allais dire, accepté, mais pas forcément de bon cœur par Emmanuel Macron. C'est effectivement Édouard Philippe qui pourrait s'inscrire dans une continuité peut-être un peu plus droitière de ce que fait Emmanuel Macron maintenant. Maintenant, si vous mettez un Gabriel Attal sur le champ de course, tout change, Dorian André.
Notre histoire politique contemporaine montre aussi beaucoup que les dauphins qui sont choisis sont aussi rarement ceux qui sont... qui sont élus. C'est plutôt ceux qui sont dans la disruption ou un peu plus dans la nouveauté.
Et Édouard Philippe est dans la disruption. Il est parti, il a dit écoutez, voilà, je ne veux plus travailler avec vous, puis on verra ce que je fais après.
C'est pour ça que celui ou celle qui essaiera d'être sur Matignon ou qui sera nommé à Matignon aura une difficulté dans la perspective 2027, où après 10 ans d'un même président de la République, il y aura mécaniquement, une volonté d'alternance
j'entends bien, mais
politique, et donc être considéré comme le sortant ou trop proche du président de la République ne sera pas forcément un avantage pour récupérer ou travailler sur le bloc central, le bloc électoral central qui sera laissé, légué par Emmanuel Macron.
J'entends bien, mais imaginez Emmanuel Macron choisir un Premier ministre qui sera par exemple Le Cornu ou de Normandie ou peut-être même Madame Borne. On laisse Gabriel Attal pour l'instant dans son ministère de l'Éducation nationale et puis tout d'un coup... quelques années plus tard, on le met en lice.
C'est pour ça que j'ai
pas de challenger parce que j'ai pas envie de lui souhaiter de.
J'ai plutôt le sentiment que le moment la convie avec cette période de remaniement est pas le fait politique le plus important qu'on aura en 2024. D'abord parce que ça vient de commencer, mais surtout le vrai tournant du quinquennat, ça va être les élections européennes. D'abord parce que ça risque d'être un électrochoc électoral très fort. En France, mais pas que sur l'ensemble des pays européens, où la vague populiste continue de s'annoncer comme très forte, et que c'est après ce moment-là, après ce moment politique électoral très fort, qu'il y aura besoin d'une impulsion de renouveau un peu politique pour le quinquennat. C'est pour ça que le timing est assez compliqué pour le président de la République et un peu inhabituel.
Je pense que ce qui doit faire peur à la majorité, c'est que l'écart électoral devient de plus en plus fort entre l'Assemblée nationale et La République En Marche. C'est-à-dire qu'on, lors des dernières élections européennes, il y avait moins d'un point d'écart, je crois, entre les deux formations politiques. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le bloc de la droite de Macron a pris, je crois, 15 points ou 20 points entre les deux élections. C'est-à-dire que non seulement le Rassemblement national monte, mais en plus, les Républicains sont crédités du même score que la dernière fois. Et en plus, Reconquête a émergé et fait 7 à 8%. Donc, ça veut dire que vous avez un bloc électoral qui équivaut à 40 voire 45% en fonction des enquêtes. Si par cas, vous avez une telle force politique qui arrive en vue de la prochaine élection présidentielle, il y a de fortes chances que Marine Le Pen ait assez de réservoirs de voix pour être élue, notamment si elle fait face à Jean-Luc Mélenchon. La clé, moi, je vois surtout pour Emmanuel Macron, c'est que, imaginons que le Rassemblement national parte sur un scénario où il maintienne son score actuel, donc entre 28 et 32%. Et imaginez que la majorité présidentielle ne fasse même pas 20%, fasse 16 ou 15%. C'est quasiment terminé pour eux. C'est-à-dire que le quinquennat est terminé pour le président de la République, surtout qu'en plus l'Europe fait partie de ces thèmes qui sont primordiaux avec les thèmes économiques. Si par cas il n'a plus la capacité de réforme qu'il avait mise en avant pour notamment montrer qu'il était différent de François Hollande. Dans la mesure où il a une majorité relative, c'est beaucoup plus compliqué de montrer qu'il a une capacité de réforme beaucoup plus importante. Si en plus, au niveau européen, il montre que c'est plus lui le leader sur ce segment-là, mais c'est plutôt le Rassemblement national. Et autre point, qu'il est plus en capacité d'être le meilleur rempart face au Rassemblement national, qu'est-ce qui restera du macronisme à 3 ans d'élection présidentielle? C'est là où moi je mets un risque. Dans la mesure, imaginez que vous me placez sur un électeur de centre-droit normal ou de centre-gauche normal. Si La République En Marche fait 15% ou 16%, personne ne croira que La République En Marche est en capacité, enfin la Renaissance, pardon, sera en capacité de battre Marine Le Pen lors des prochaines élections présidentielles. Donc ils perdront la capacité du vote utile et la capacité de faire barrage.
J'ajoute juste une petite chose, une nuance à ce que vous dites, William Tess, c'est uniquement si les observateurs dans les médias, dans les journaux, dans les think tanks le disent. Parce que les électeurs... l'élection européenne, de tout temps, ça a été quelque chose... regardez les participations. Les gens s'en fichent, en fait, des européennes. Cette année, c'est un peu particulier. On a souvent dit que c'était une sorte de mid-term par rapport à 27, parce qu'il y a une sorte d'incertitude. Mais voilà, si nous, on ne se fait pas l'écho des européennes, je ne pense pas que, pense pas que ce soit aussi vindicatif.
Vous aurez un scénario où la plupart des journalistes politiques vont... Parce que ce sera le seul scrutin national.
Puis on va faire les élections spéciales, que les gens vont écouter,
les journalistes vont se positionner dessus. Et surtout, comme vous avez un champ politique qui est très, très mouvant, vous aurez un certain nombre d'acteurs politiques qui vont se positionner en fonction. Est-ce que vous n'aurez pas une grande partie de Reconquête qui va rejoindre le Rassemblement National si le Rassemblement National est à 30? Est-ce qu'il y a une partie d'LR qui ne peut pas se positionner vers Édouard Philippe, vers leur candidat originel, ou vers Marine Le Pen?
Les vases communicants, ça fait quand même quelques années qu'on en parle, mais ça n'arrive jamais.
Ils communiquent assez peu souvent.
Oui, mais
les vases communicants qu'on annonce, ils communiquent assez peu souvent.
Oui, et puis surtout quand tu communiques, ils s'envoient des noms d'oiseaux.
Sur le scrutin de juin 24, il y a quand même une participation un peu en hausse, hein, sur les dernières dernières élections européennes, le taux de participation était en hausse par rapport aux précédentes. C'est pas impossible.
Ça peut pas être plus bas.
C'est pas impossible, oui. Et c'est heureux que ça baisse pas plus, mais c'est pas impossible qu'il y ait un nouveau regain de participation et que ça soit pas si déconnant par rapport aux élections précédentes. Mais le ou la première ministre aura pas d'impact en tant que chef de gouvernement ou chef de la majorité sur ce scrutin. Le seul qui pourrait booster, aider et qui est attendu par l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron lui-même. Il l'avait fait en 2019, il s'était beaucoup engagé dans la campagne des européennes, justement d'avoir à Matignon une personnalité politique assez forte, qui est capable de tenir le gouvernement, l'Assemblée nationale et la majorité et de gouverner, permettrait à Emmanuel Macron de s'impliquer beaucoup plus dans la campagne des européennes.
Oui, et alors, sur l'incarnation aussi, parce que jusqu'à présent, on avait dit c'est Stéphane Séjourné. Dernièrement, on a appris dans la semaine du remaniement que visiblement, on mettait le nom de Bruno Le Maire un peu entre parenthèses parce que le président souhaiterait qu'il aille aux européennes. C'est plausible, ça, BLM aux européennes?
Je pense qu'il faut...
Il n'ira pas.
Moi, je pense qu'il ne faut rien exclure parce que, de toute façon... On l'a vu notamment avec les ministres qui ont voulu, entre guillemets, organiser un poupouche sur la loi immigration, c'est-à-dire qu'on a vu qu'en fait, il ne pesait rien sur le président de la République. C'est-à-dire qu'une grande partie du personnel politique du gouvernement ne pèse rien aujourd'hui si par cas Macron les défait comme ministre, ils auront une existence qui sera quelconque. La question pour Bruno Le Maire, c'est si par cas Emmanuel Macron lui a vraiment fait l'option, je ne sais pas si c'est vrai, mais lui a dit soit ses têtes de liste, soit c'est rien, qu'est-ce qu'il peut faire pendant 3 ans pour exister sur la scène politique?
Il peut rejoindre Édouard Philippe dans sa préparation de la présidentielle de 27.
Si par cas, il veut vraiment être président de la République lui-même, ce qui se murmure auprès de Bruno Le Maire, il ne peut pas battre Édouard Philippe sur ce segment, en tout cas dans cette position de mise en retrait, parce que le champ est déjà occupé par Édouard Philippe.
Donc si Bruno Le Maire veut être président aussi à son tour, ça veut dire qu'on va avoir un échiquier politique comme on a depuis X années, X décennies, c'est-à-dire qu'à droite, la droite s'engueule, se tire dessus, etc. Et on va avoir un casting absolument infernal de 6, 7, 8 candidats.
Oui, à
8 mois. Peut-être une primaire radiophonique, télévisée, Europe 1 CNews, avec, comme on avait eu en 2016.
À 8 mois de l'élection, oui, et puis après, il en restera plus qu'un ou deux.
Ouais. Dorian Drey, vous voyez les choses comme ça, panel de droite.
C'est pas une spécificité de la droite d'arriver à une élection avec plusieurs candidats.
Là, en l'occurrence, on parle de la droite.
Et parfois qui se ressemblent. Je me fais toujours la réflexion quand on parle des têtes de liste et de qui va être tête de liste ou qui a choisi qui. Je me dis toujours qu'il y a une catégorie de personnes qui doivent se sentir un peu oubliées dans ces moments-là, c'est les militants et les adhérents des partis politiques qu'on consulte assez peu finalement pour savoir qui est l'incarnation ou pas de leur propre camp, de leur propre parti. Le sentiment... Moi, que j'ai, c'est que, encore une fois, la tête de liste importera peu sur l'élection sur les européennes. C'est la présence ou pas du président de la République dans cette campagne et qui ferait la différence ou non.
Donc, on en revient toujours à cet adage qu'il vaut mieux parler à Dieu plutôt qu'à ses apôtres. Et c'est toujours pareil. Sur le timing, là, alors évidemment, personne n'a de boule de cristal. On a eu cette information du service politique d'Europe 1 comme quoi, voilà, ça pourrait intervenir demain. On est quoi ? On est dans une course contre la montre. En même temps, les Français se disent bon, bah, on va changer de Premier ministre. Et puis alors, ça ne va pas changer ni la fin de mois, ni le fait qu'il va faire moins 12 cette semaine dans certaines zones de France. L'opposition, William Tay, l'opposition de droite, les Républicains, le Rassemblement national, la gauche mélenchoniste de LFI, comment est-ce qu'ils regardent tout ça ?
Je pense que de toute façon, qu'importe le Premier ministre, ils tiendront à peu près le même discours et diront qu'Emmanuel Macron n'a pas changé de cap et que ce sera la même copie conforme qu'Elisabeth Borne. Donc de toute façon, ils tiendront à peu près le même discours. La gauche dira...
Est-ce qu'ils n'en profiteront pas aussi pour avancer leur pion aussi ?
Peut-être, mais je pense que la gauche dira de toute façon qu'Emmanuel Macron n'a jamais mis un Premier ministre aussi droitier, et la droite dira qu'ils n'ont jamais mis un Premier ministre aussi de gauche ou aussi gauchiste qu'ils n'ont jamais vu. Donc le discours des oppositions, on l'aura à peu près. La question qui est posée, moi je pense, est essentielle. C'est qu'avec la résurgence des noms comme Gabriel Attal, c'est est-ce qu'on aura un Premier ministre politique qui a du poids, et donc dans ce cas-là, ou qui va attirer l'attention sur lui, c'est-à-dire les oppositions vont se concentrer non pas sur le président de la République, mais sur le Premier ministre. Si par cas vous avez un Premier ministre technique, le cornu, Elisabeth Borne, ou peut-être un peu Richard Ferrand, et bien dans ce cas-là, les oppositions resteront dans le jeu actuel, qui se diront, bah, de toute façon...
L'homme à battre, c'est Emmanuel Macron,
ouais. Et ses potentiels successeurs, donc Attal et Édouard Philippe.
Comment est-ce que vous sentez le pouls de l'opposition, Dorian Dreuil, à gauche comme à droite ?
Comme disait William, c'est sans surprise, ils vont continuer à s'opposer, à taper comme des sourds, parce que c'est le jeu de nos institutions, malheureusement, aujourd'hui. Mais dans tous les cas, en fait, peu importe les scénarios qu'on peut imaginer ou ce que donnera comme verdict le président de la République, on en reviendra toujours au même blocage institutionnel à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de majorité absolue, il n'y aura pas de majorité alternative. Ouais. Donc on va continuer à se faire peur avec des motions de censure qui se jouent à pas grand-chose, ou avec des textes qui ne peuvent pas être votés, ou avec l'ensemble de l'arsenal des outils qui existent dans la Ve République pour avoir des votes bloqués, des procédures accélérées, qui rétrécissent le débat à un moment où on n'a jamais eu autant besoin d'avoir du débat politique, justement. Ouais. Et où c'est aussi une attente dans l'opinion d'avoir un débat beaucoup plus apaisé sur les grands sujets de société. Et ça, on aura du mal à l'avoir dans notre fonctionnement institutionnel actuel, qui ne permet pas d'avoir un fonctionnement démocratique moderne.
Affaire à suivre, comme on dit, dans beaucoup de dossiers, justement, et celui-ci, évidemment, à suivre dans ces prochaines heures, et notamment dans la matinale d'Europe 1, demain matin, où vous retrouvez, bien sûr, Dimitri Pavlenko.